Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal à la présentation, Noël Alouzi Tukambavi.
Faire de la couverture santé universelle une priorité absolue. Ultime recommandation du chef de l'État au gouverneur de province à la clôture samedi de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Kolwezi au Lualaba. Conférence consacrée notamment aux questions de la santé, dont le VIH-Sida pédiatrique. Près de 20 morts ont été enregistrés à la suite de la pluie torrentielle qui s'est abattue le samedi sur la ville de Kinshasa. À ce bilan humain, il faut ajouter des habitations détruites ou inondées par des vagues d'eau. Ainsi, plusieurs familles passent-elles la nuit à la belle étoile. Et puis, vous suivrez aussi la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. La chef de la MONUSCO a clôturé le samedi 14 juin son séjour à Goma, où sa délégation a rencontré notamment la coordination de l'AFC M23 et le commandement de la mission de la SADC. Bintou Keïta est l'invité de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, recommande à chaque gouverneur de province de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue et de réserver annuellement au moins 15% du budget à ce secteur. Recommandation faite le vendredi 13 juin lors de son discours marquant la clôture de la 12e conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi. Une conférence qui a accordé une part belle au secteur de la santé. Félix Tshisekedi sollicite également l'engagement des uns et des autres pour une mobilisation remarquable dans le but de protéger tout enfant congolais de l'infection liée au VIH-Sida. On écoute le président Félix Tshisekedi dans cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Au terme de cette 12e session de la conférence des gouverneurs, vous avez fait preuve de lucidité et responsabilité pour analyser les défis majeurs auxquels fait face notre système de santé et pour proposer des recommandations pertinentes et réalisables. Dans chaque province, dans chaque territoire, l'accès à la santé est une mesure tangible de dignité humaine, de stabilité et de progrès social. Lorsqu'un enfant naît dans de bonnes conditions, lorsqu'un paysan reçoit des soins sans s'endetter, lorsqu'un jeune accède facilement à des services médicaux de qualité, c'est toute notre nation qui avance et qui retrouve confiance en son avenir. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Je souligne particulièrement l'urgence de renforcer notre lutte contre le VIH-Sida pédiatrique pour offrir à nos enfants une protection digne et équitable.
Toujours dans l'espace Grand Katanga, la première ministre a, elle, clôturé samedi à Lubumbashi la 20e édition de la DRC Mining Week. Judith Tsuminwa met l'accent sur deux priorités majeures qui structurent l'action de son gouvernement. Il s'agit de l'accès fiable à l'énergie pour favoriser l'exploitation industrielle durable et l'opérationnalisation du corridor de Lobito, notamment pour faciliter le transport des minerais stratégiques. Ici à Kinshasa, la session ordinaire de mars 2025 s'est clôturée hier dimanche à l'Assemblée nationale et au Sénat. Plusieurs matières étaient à l'ordre du jour dans les deux chambres du Parlement, c'est notamment la présentation du rapport du bureau de l'Assemblée nationale sur les initiatives législatives et de contrôle qui ont caractérisé la dite session. Dans son mot de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, appelle les députés à s'engager pour mettre fin à la guerre d'agression du M23 soutenue par le Rwanda dans la partie Est et à tenir compte des plusieurs autres problèmes de la population congolaise pendant leurs vacances parlementaires. Grâce à Mzati.
Au cours de cette session de mars, le rapport des activités à l'Assemblée nationale indique que plusieurs membres du gouvernement et des mandataires publics ont été interrogés par les députés sur la gestion de la chose publique dans les différents domaines de la vie nationale. Ainsi, Vital Kamerhe invite chacun à jouer sa partition pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population.
Nombreuses recommandations ont été formulées aussi bien par les membres du gouvernement, précis ici, que par les honorables députés, non seulement pour tenir compte des difficultés de nos populations, mais aussi concrétiser les activités contenues dans le programme des 145 territoires et corriger les inégalités relevées à travers les attributions et l'engagement et décaissement de l'argent dit trésor public.
Tout en insistant sur le fait que les députés doivent effectivement rentrer dans leurs bases respectives pour s'imprégner des vrais problèmes de leurs électeurs, Vital Kamerhe leur demande de réfléchir principalement sur le banditisme urbain, marqué notamment par les braquages, mais aussi sur la problématique de la gestion des immondices ou déchets plastiques. De son côté, Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat, qui dresse un bilan satisfaisant des travaux de cette session, invite également ses collègues sénateurs à soutenir tous les efforts visant à ramener la paix durable dans le pays.
Et peu avant la clôture hier de la session de mars à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont répondu favorablement au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant des poursuites judiciaires contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. L'Assemblée plénière a autorisé ces poursuites contre Constant Moutamba après la présentation du rapport de la commission spéciale temporaire chargée d'examiner le dit réquisitoire. Il est poursuivi pour un détournement présumé des 19 millions de dollars américains dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. Dans ce réquisitoire, le procureur général affirme que les explications fournies par le ministre pendant ses auditions n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer les faits qui lui sont reprochés. Au contraire, ces explications ont permis de consolider les accusations, affirme le procureur Firmin Vondé. Vous savez sans doute qu'une pluie torrentielle s'est abattue dans la matinée de samedi sur la ville de Kinshasa et a causé des morts, des maisons détruites, des routes coupées et des habitations inondées dans plusieurs communes. Si la circulation a été perturbée dans certains coins dans la matinée, dans d'autres, plusieurs familles ont passé la nuit à la belle étoile. Leurs habitations ont été complètement inondées. Plantin Mbenga revient sur la situation qui a prévalu ce week-end.
On a enregistré 18 morts sur les avenues Kombo et Madimba, précisément au quartier Moussei, nord-ouest du Kanchachi. Ces morts sont causées par les écroulements de murs après la pluie diluvienne tombée la nuit de vendredi à samedi. Nous devons tous être unis pour combattre les constructions anarchiques, a dit samedi à l'ACP Fulgence Bolonkomo, bourgmestre de la commune d'Engaliema. Les dégâts causés par cette pluie sont encore visibles dans plusieurs communes de la capitale. À Mbanza Lemba, dans la commune de Lemba, un couple est décédé à la suite de l'écroulement d'un mur de leur habitation. L'information est confirmée par les bourgmestres de la commune, Jean-Serge Poba. À Kalamu, plusieurs infrastructures, notamment des ponts, ont été détruites, perturbant ainsi la circulation, d'après son bourgmestre Charlie Louboya. La commune de Kissinsé n'est pas en reste. 4 maisons se sont écroulées. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, explique son bourgmestre Godet actuel. À Limété, des cas d'inondation sont rapportés au quartier Ndanou, alors qu'à Mongafula, plusieurs têtes d'érosion ont progressé à la suite de cette pluie, occasionnant la destruction de quelques habitations, comme dans la commune voisine d'Engaliema, où l'avenue Okito, dont les travaux de réhabilitation étaient en cours, s'est coupée en deux.
Et que penser alors de cette pluie torrentielle de samedi sur la ville de Kinshasa, pendant que d'aucuns se considéraient déjà en pleine saison sèche? Professeur Kabasele Yengayenga explique que les effets de ce dérèglement climatique vont se faire sentir de plus en plus en ce moment. Ce docteur en physique spatiale du climat et responsable de l'Observatoire spatial des ressources naturelles et du climat invite le gouvernement congolais à adopter dans sa gestion au quotidien une politique qui prend en considération les géorisques à cause de ce dérèglement climatique. Professeur Kabasele Yengayenga s'exprime au micro de Billy Yvan Lutumba.
Il n'y a jamais eu pour 2025 le début d'une saison sèche. Non, nous sommes toujours dans la saison des pluies qui s'est déplacée d'un mois, du 15 mai au 15 juin. Normalement, je suppose que nous sommes maintenant vers la fin de la saison des pluies. Et c'est un dérèglement climatique. On a là un problème sérieux pour lequel on doit devoir s'adapter vis-à-vis du géorisque qui doit être tout un programme du gouvernement. Je demande ici que l'État congolais se saisisse de cette question. Il faut prévoir les catastrophes naturelles comme faisant partie du quotidien. Parce que maintenant, on aura des réchauffements climatiques chaque année. On en aura. Il y en avait tous les 10 ans depuis les années 90. Et en 2000, il y en avait tous les 5 ans. En 2010, il y en a eu tous les 2 ans. Et après 2020, on doit s'habituer aux inondations chaque année. Et ces inondations sont concentrées au mois de novembre-décembre et au mois de mars-avril-mai. Et maintenant, juin vient de s'ajouter pour la première fois dans l'histoire du climat en RDC.
Floribert Boinatui nous offre un modèle concret d'honnêteté à suivre absolument. C'est un exemple non seulement pour les jeunes, mais aussi et surtout pour les politiciens aguerris dont la conscience semble s'être étue face à la corruption et au détournement de fonds. C'est le message du député national honoraire Juvénal Munobo, ancien camarade de Floribert Boinatui à l'université de Goma au Nord Kivu. Après avoir assisté à la messe de béatification de son ami dans la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome, Juvénal Munobo exhorte toutes les personnes détenant une parcelle de pouvoir en RDC à privilégier le bonheur collectif, à l'image de Boinatui qu'il a fait au prix de sa vie. On l'écoute dans ses propos recueillis par Rosalie Zawadi.
La réalité, c'est qu'au Congo, il y a des gens qui s'enrichissent au détriment de l'État. Le bonheur national n'est pas équitablement partagé. Il y a des gens qui s'enrichissent follement. Le défi ici, c'est de refonder l'État congolais. Et pour bien refonder l'État congolais, il faut lutter contre la corruption, il faut lutter contre le détournement. Et donc ça, c'est un exemple qu'il faut suivre. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que mon bonheur à moi seul, ça suffit? Est-ce que le bonheur de ma famille, ça suffit? Eh bien, il faut chercher le bonheur de ma nation, de ma communauté. Et si on agit comme ça, on agit comme un politicien chrétien, avec le sens de servir, du devoir. Et si on agit comme ça, c'est qu'on est vraiment sur les traces de Floribert Boinatui. C'est ça la leçon à tirer. Quand vous avez quelque chose à gérer, vous le gérez de manière transparente. De faire en sorte que les lois qu'on vote au Parlement trouvent application. Ça, c'est le défi. Et c'est un défi qui doit être partagé par tous ceux-là qui ont une parcelle de responsabilité. Qu'importe les degrés de cette responsabilité, chacun doit faire sa part pour refonder l'État congolais et asseoir une bonne gouvernance.
Pour rappel, le Congolais laïque Floribert Boinatui, Bin Kositi, membre de la communauté de Saint-Égidio, béatifié hier dimanche à Rome, était un fonctionnaire de l'Office congolais de contrôle, OCC, organisme chargé de vérifier la conformité des produits devant franchir la frontière pour entrer en RDC. Il fut tué en 2007 à l'âge de 26 ans seulement dans l'exercice de ses fonctions. En novembre 2024, le pape François l'a reconnu martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Ce lundi 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. La coordination urbaine de la société civile du Congo Sosiko de la ville de Beni au Nord Kivu se dit préoccupée par le phénomène des enfants mendiants qui prend de l'ampleur dans la ville. Avec l'arrivée de nombreux enfants déplacés de guerre, plusieurs parmi eux errent dans les rues de Beni. Junior Mumbere Mbakuli Rai, coordonnateur urbain de cette structure citoyenne, exprime sa crainte de voir ses enfants se mettre en conflit avec la loi. Il plaide auprès du gouvernement congolais en faveur d'une intervention pour sauver ses enfants en situation d'abandon et de vulnérabilité. Junior Mumbere Mbakuli Rai est joint au téléphone par André Kitenge.
Nous, comme coordination de la société civile du Congo Béniville, nous avions voulu nous associer pour interpeller les autorités à tous les niveaux, dépasser à pleine ratification de la convention numéro 138 de l'OIT qui concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi et aussi à la mise en œuvre de la convention numéro 182 de l'OIT sur le pire forme de travail des enfants. Comme vous le savez, il y a un flux des enfants ici chez nous à Beni. Nous avions voulu que les gouvernements puissent prendre des mesures parce que on risque de vivre ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, qu'on les appelle les enfants Kuluna. Et il y a déjà des enfants par-ci, par-là. J'aimerais que via cette journée, que le gouvernement puisse prendre vraiment des dispositions pour encadrer les enfants. Parce que nous les voyons par-ci, par-là mendier. Et ce qui ne donne pas une bonne couleur pour la République démocratique du Congo. L'enfant, sa place, c'est à l'école et non sur la rue.
Actualité internationale.
Le président américain Donald Trump a ordonné hier des nouvelles opérations anti-migrants dans les principales cités démocrates en vue du plus grand programme d'expulsion de l'histoire. Sur son réseau Truth Social, il a déclaré que des efforts doivent être redoublés pour arrêter et expulser les étrangers illégaux des plus grandes villes américaines comme Los Angeles, Chicago et New York, où habitent des millions d'étrangers illégaux.
L'invité.
Comme invité de ce journal, nous avons la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. Arrivée jeudi dernier à Goma, Bintou Keïta a clôturé son séjour le samedi 14 juin. Sa délégation a rencontré plusieurs acteurs, dont la coordination de l'AFC 123 et le commandement de la mission de la SADC, Sami Diarsi. Que retenir de cette mission? Suivons Bintou Keïta dans cet entretien accordé à Bernardin Nyangui.
Madame Bintou Keïta, bonjour.
Bonjour.
Quel était l'objet de votre visite à Goma au moment où cette partie de la province connaît toujours une situation particulière?
Merci beaucoup. Donc, le premier objectif que j'avais, c'était de rencontrer le personnel militaire et civil de la mission, parce que je n'ai pas été en contact physique avec ce personnel depuis plusieurs mois, en fait depuis début janvier. Et c'était pour moi un moment très important de pouvoir finalement rencontrer tout le personnel. Deuxièmement, c'était aussi de pouvoir faire l'évaluation du fait du départ de nos bases de 1359 éléments des FRDC et de la PNC grâce à la facilitation du CICR, avec aussi l'assentiment du gouvernement congolais, et aussi rencontrer le leadership de AFC M23 pour différents niveaux de discussion. Donc, et de la MONUSCO en travaillant avec le CICR, d'avoir fait cette opération qui a transporté tout le monde de ces 1359 de Goma à Kinshasa. Donc de voir ceux qui sont encore dans nos bases, des FRDC, de la PNC, mais aussi le personnel civil qui reste toujours protégé dans nos bases. Le troisième aspect de cet élément de rencontre, c'est que vous savez que la SAMI RDC est en train de partir, et nous, en tant que MONUSCO, nous aidons au départ de cette mission, puisque nous avons une résolution du Conseil de sécurité qui s'appelle la résolution 2746 du mois d'août 2024, qui nous demande d'aider lorsque nous sommes demandés la SAMI RDC. Donc j'ai rencontré le commandant de la force de SAMI RDC, et c'était aussi une façon pour moi de pouvoir dire au revoir au commandant de la force SAMI RDC. Ensuite, il est très clair que j'ai aussi, dans mes objectifs, de rencontrer, d'engager le leadership de AFC M23. Et dans cet engagement, il y avait plusieurs aspects. Le premier, c'était de voir comment travailler ensemble, puisque nous avons déjà commencé depuis plusieurs mois à regarder, et notamment comment faire en sorte que les 1359 éléments de FRDC PNC sortent de nos bases en toute sécurité jusqu'à Kinshasa, mais aussi de voir comment dans le futur très proche nous pouvons mettre à profit une façon de travailler, de continuer les engagements ensemble pour que la population puisse profiter de la présence continue de la mission à Goma, et aussi de voir comment dans les défis que nous voyons en tant que mission depuis la fin de janvier, faire en sorte que les questions, les défis du quotidien finalement pour notre personnel en termes d'accès, en termes de mobilité, en termes de chaîne logistique, en termes de rotation de nos troupes, également en termes de pouvoir accompagner au mieux les efforts au profit de la population comme on a l'habitude de le faire, que tout ça puisse être mis sur la table, et donc tous ces éléments ont été mis sur la table pour qu'on puisse le discuter dans les jours qui viennent pour pouvoir trouver des solutions à tout cela.
À Goma, ici, vous avez été accueilli par la famille du personnel des Nations Unies, en particulier le personnel de la MONUSCO, qui est d'ailleurs heureux de votre visite après près de 6 mois vivant dans cette zone coupée de la capitale de la RDC. Y a-t-il un message particulier pour leur compte?
Alors, très clairement pour nous, la délégation qui est venue avec moi, parce que je ne suis pas venue seule, c'était très émotionnel de rencontrer physiquement ce personnel, parce que nous savons que ça a été des moments extrêmement difficiles. Donc, dans le message clé, c'est d'apprécier la résilience, le courage et le professionnalisme de tout ce personnel pendant des jours et des jours, des semaines, des mois, puisque nous sommes quasiment au 6e mois maintenant, et de leur dire combien nous admirons tout ce qu'ils ont enduré au plan personnel, mais aussi au plan de leur famille.
Peut-être une dernière question. Vous êtes à la fin de cette visite. Quel est le sentiment général?
Alors, un sentiment extrêmement fort et très, encore une fois, empreint d'émotion, parce que lorsque l'hélicoptère qui a atterri donc à Lava Site à Goma, j'entendais beaucoup de sentiments, quelque part de soulagement, de voir qu'un hélicoptère atterrissait à Goma depuis plusieurs mois, et pas n'importe quel hélicoptère, un hélicoptère des Nations Unies, avec ce logo que beaucoup de gens connaissent, UN, et ça tellement suscité des émotions très fortes que j'ai vu même moi-même, hein, à certains moments, je pense que nous aurions pu verser des larmes les uns les autres. J'ai senti que même dans la population, ça a soulevé beaucoup d'espoir. Et donc pour moi, c'est vraiment, véritablement, toutes les initiatives de paix qui sont en cours puissent aboutir, donner des résultats concrets, et notamment pour nous, la mise en œuvre de cette résolution 2773 du 21 février dernier, pour que la paix puisse enfin être palpable et que la population puisse ressentir les bienfaits de toutes ces discussions qui sont en cours maintenant.
Madame la représentante spéciale, chef de la MONUSCO, merci.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi, un journal mis en onde par Alain Goy sous la coordination et la supervision de Alain Irung. Merci de nous avoir suivis.